Au chef des chœurs, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde! Réponds-moi, Éternel mon Dieu, éclaire mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien.
Psaume 13 de David. Vous pouvez ouvrir vos Bibles si vous les avez avec vous. C'est un psaume qui est fort. J'avais choisi ce texte-là bien avant que des événements de la semaine me conduisent à évoquer ou à prendre en compte la question de la souffrance. Donc c'est un texte que j'avais retenu pour la prédication de ce matin, le psaume 13 de David, et je voulais que Patricia le lise sans forcément que vous ayez les paroles sous les yeux, mais maintenant, si on peut afficher le psaume 13, voilà, vous pourrez le suivre avec moi pendant ce temps de méditation. C'est un psaume qui parle d'un homme en souffrance. C'est un psaume qui parle de quelqu'un qui fait l'expérience de la souffrance, de la peur, de la crainte, et qui s'interroge. On peut dire qu'il y a trois parties dans ce psaume, mais la première, je dirais, est tellement proche de notre humanité, tellement semblable aux questions que nous nous posons quand nous sommes en difficulté. Jusqu'à quand? Pourquoi est-ce que je suis oublié? Pourquoi tu te caches de moi, Seigneur? C'est la première partie de ce psaume. Jusqu'à quand aurai-je des soucis avec mon âme, des chagrins dans le cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Plein de questions. Et ce que disait Aurore, c'est qu'il y a parfois tellement de questions que l'on s'en pose quand on est confronté à la souffrance, à la difficulté. J'ai entendu aussi cela dans des prières ce matin. Tous les pourquoi que l'on adresse à Dieu et qui s'élèvent de nos cœurs. Ah. Ce psaume est écrit dans des circonstances particulières. C'est le roi David qui l'écrit, mais à une période de sa vie où il est persécuté par Saül. Saül le poursuit. La seule obsession de Saül, c'est d'éliminer celui qui doit prendre sa succession. Donc, alors qu'il a accueilli David dans son palais, alors qu'il lui a laissé de la place, tout à coup, il s'élève contre lui parce qu'il prend conscience que David est appelé à lui succéder et que sa famille sera écartée. Saül n'est pas un homme mauvais. C'est un homme qui s'est trompé de chemin. Mais si vous relisez l'appel de Saül, c'est un des appels les plus beaux qui soient. J'ai beaucoup aimé travailler sur le texte de l'appel de Saül. On prêche peu sur ce texte-là parce qu'on considère que c'est un homme dont la fin a été négative, mais le commencement était en Dieu. Et là, il s'acharne sur David. Il le poursuit avec ses soldats, ses guerriers. Et il cherche à le faire mourir. Et David est dans cette période ou bien qu'ayant reçu l'onction, il se retrouve dans des périodes longues de souffrance, de peur de mourir. Il a reçu l'onction. Il devrait profiter de la vie en attendant que le trône se libère, que les promesses de Dieu s'accomplissent dans sa vie. Et je dirais, quelque part, on peut nous aussi avoir cette même attitude face aux difficultés, se dire « mais je suis sauvé, j'ai donné ma vie à Christ ». Je ne devrais plus avoir qu'un chemin avec des pétales de rose qui me conduisent jusqu'à la présence de Dieu, voire à son retour. Que nenni, pas du tout. L'apôtre Paul, comme il l'était dit tout à l'heure, ne dit pas que notre vie sera un jardin rempli de roses, mais quelles que soient les conditions, quelles que soient les vallées de l'ombre de la mort que je doive traverser, que je puisse les traverser avec lui et en lui. David voit que rien ne se déroule comme il le pensait. La haine de Saül lui pourrit la vie. La bénédiction devient même synonyme de lutte, de combat au quotidien. Pourquoi avoir été choisi comme roi si c'était pour en arriver là, pour vivre cela? Et parfois, en tant que chrétien, on peut se dire ça aussi. Pourquoi avoir donné ma vie à Christ pour subir ces assauts répétés de l'adversité, de la difficulté? Pour David, son âme est au bord du gouffre, sa foi vacille. Le désespoir l'envahit. Et là aussi, qui d'entre nous n'a pas connu cette situation-là? Dans des domaines bien différents. On a entendu le témoignage d'Aurore, mais je suis sûr que parmi nous, il y en a qui pourraient dire « Moi aussi, j'ai subi. J'ai vécu ces temps difficiles. » David voit le désespoir l'envahir tout entier, être confronté à la mort en permanence. Alors il crie à Dieu. Il crie d'abord sa désespérance, sa souffrance. Quel mauvais croyant. Quel mauvais croyant. Et pourtant, Dieu entend et écoute ses cris. Les cris de celui qui lève les yeux vers Dieu, Dieu les entend. Et j'ai envie de dire même que Dieu les respecte. Je me méfie beaucoup de ces pharisiens chrétiens qui, au nom de la foi, disent « Mais pourquoi est-ce que tu cries? Pourquoi est-ce que tu es dans la souffrance? Tu devrais, malgré les circonstances, te tenir debout, droit, comme un i, et louer le Seigneur. » Il est des temps où les cris, les larmes et les pleurs sont légitimes. Sont légitimes! Ne soyons pas pharisiens. David crie à Dieu et Dieu l'entend, Dieu l'écoute. Certains confondent la foi en Christ comme une opposition aux émotions humaines, le découragement comme un manque de foi. Mais si nous lisons le livre de Job, vous connaissez le livre de Job ? Nous voyons un homme qui a subi des pertes essentielles et qui, pendant 37 chapitres, crie sa colère et son incompréhension des choses qu'il a subies. Il s'oppose à des faux amis. Quand je parle de pharisiens, Job, il a été gâté. Les amis qui sont là à côté et qui lui expliquent que c'est peut-être de sa faute s'il a subi ces choses. Mais Dieu ne condamne pas Job, il ne le rejette pas du fait de ses questionnements, de ses interrogations. Bien au contraire, il va cheminer avec lui. Et même les paroles de ses faux amis ne sont pas couvertes du sceau de Dieu. Mais Dieu va laisser les choses pour que Job voit que Dieu chemine à ses côtés. 37 chapitres sur une quarantaine où Job essaye de comprendre. Nous reviendrons à la parole de David au psaume 13. C'est important d'essayer de comprendre, mais de comprendre en quoi et en qui. Il est dit dans Job, au chapitre 38, verset 1, « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. » Et au chapitre 40, verset 6, « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. » On n'a jamais entendu parler de tempête avant, et tout à coup, il semble qu'il y ait une tempête qui soit là, et Dieu parle au milieu de cette tempête. Ça ne vous fait pas penser à un texte de l'Évangile ? Ce moment où Jésus est dans la barque, la tempête se lève, et les disciples s'affolent. Mais dans Job, on n'entend pas parler de tempête. C'est tout à coup comme s'il y a une tempête qui est là, et c'est au milieu de cette tempête que Dieu parle à Job. En fait, il s'agit d'une image où Dieu dit dans sa parole, au milieu de la tempête qui t'agite à l'intérieur de toi, eh bien, je vais te répondre. Dieu répond au milieu de la tempête qui naît de nos peurs, de nos craintes, de nos circonstances de vie. Et au milieu de cette tempête, la parole de Dieu vise à nous rencontrer, à nous toucher. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Peut-être connais-tu des tempêtes dans ta vie. Certainement en connaîtras-tu intérieurement des temps de bouleversement. Des moments où plus rien, plus aucun repère ne subsiste. Eh bien, au milieu de cette tempête, nous sommes assurés que Dieu veut nous répondre. Il veut nous toucher, nous rencontrer. De quelle tempête est-il question ? De celle qui agite Job tout entier au plus profond de son cœur, de son âme. Il a cherché un sens à sa souffrance, à tout ce qu'il a perdu. Et au milieu de la tempête, Dieu veut le rencontrer et marcher à ses côtés. Il veut lui parler, lui répondre. Et là où les amis de Job n'ont que des paroles d'hommes à apporter, Dieu veut toucher le cœur de Job. Au milieu de cette tempête, je suis là pour te rencontrer. C'est cela l'amour de Dieu. C'est là le sens, là aussi, du chemin que nous avons à parcourir les uns et les autres. On peut penser aux deux pèlerins qui marchaient sur une route remplie de tristesse après avoir assisté à la mort de celui qu'ils avaient suivi pendant plusieurs années. Et tout à coup, le Christ se met à marcher à côté d'eux. C'est cela, le sens de l'amour de Dieu, de l'attention. Il veut marcher à mes côtés, même quand la tempête bouillonne à l'intérieur de moi, quand j'ai plus de questions que de réponses, plus de peur que d'assurance. David est dans cette situation. Dans le début de ce psaume, il dit « Jusqu'où, Dieu, m'oublieras-tu avec persistance ?» Ça, c'est la traduction d'André Chouraki. « Jusqu'où m'oublieras-tu avec persistance ?» C'est oser de dire ça avec Dieu. Pourquoi, Seigneur, est-ce que tu t'obstines à m'oublier ? Et vous savez quoi ? Dieu ne reprend pas David. Il entend cette colère. Il entend cette impatience. Jusqu'à quand ça va durer ? J'étais à l'hôpital rencontrer Huguette, cette femme dont je parle régulièrement et que je visite depuis un an et demi, qui a été hospitalisée pour une occlusion intestinale, elle a plus de 84 ans, elle est dans un état de santé fragile, et elle ne m'a pas téléphoné pour me dire ça, je l'ai appris, alors que j'essayais de l'appeler, je me disais, mais où est-elle, que fait-elle? Et elle a dit, mais j'étais tellement mal, pendant des heures et des heures avec cette souffrance, qu'à un moment donné, j'ai dit au médecin, arrêtez tout, faites-moi partir. Que je parte. Jusqu'à quand est-ce que cela va durer, cette souffrance et cette douleur ? C'est ce que dit David. Huguette va mieux. Je vais lui rendre visite à l'hôpital. Elle va mieux, puis on peut continuer à cheminer ensemble. Et elle peut continuer à cheminer avec le Seigneur. Jusqu'à quand ? Nous nous interrogeons souvent sur la durée de la douleur que nous avons à supporter. C'est ce que dit David. Est-ce que ça va encore durer longtemps ? J'aimerais en sortir. Ça devient insupportable. Si moi, je l'ignore, David sait que Dieu connaît la fin de notre épreuve. Sans doute avons-nous été confrontés à des épreuves qui semblent durer sans qu'une solution nous soit proposée, sans qu'un terme arrive qui réponde à notre attente. Mais David, on le verra par la suite, sait et connaît toutes choses. Il fait le choix de se tourner vers son Dieu. L'Ecclésiaste c'est-à-dire le fils de David, disait ceci, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. » Chapitre 3, verset 11. « Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à sa fin. » J'aime ce verset. Salomon dit, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. » Oh, quand on est dans l'épreuve, dans la souffrance et la difficulté, c'est difficile d'accepter cette parole. Hein ? Parfois même, c'est insupportable de l'entendre. Mais pour certains pasteurs, c'est si facile à dire à ceux qui souffrent. Hein ? Vous n'avez jamais eu ça ? Des personnes semblables aux amis de Job qui viennent, « Oh, tu sais, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, tu verras, tu t'en sortiras, ça ira mieux. » Mais ce n'est pas une parole qui est entendable là, maintenant. Hein ? Par contre, est-ce que je peux, moi, chercher des réponses dans des chemins qui ne m'enferment pas, qui ne me laissent pas entretenir la souffrance et la douleur, la peur, la crainte. Jusqu'à quand ? M'oublieras-tu sans cesse ? Avoir le sentiment que la douleur, la souffrance, les difficultés, c'est comme si Dieu nous avait oubliés, il nous avait mis de côté. Ça fonctionne pour les autres et pour moi, ça ne marche pas. Hein ? Est-ce que tu m'as oublié, Seigneur ? Se sentir oublié du ciel, avoir le sentiment qu'un ciel de plomb se trouve au-dessus de nos têtes et qu'aucune prière, aucune parole ne puisse atteindre ou toucher le cœur de Dieu. Là, je reprendrai les mots de Michel qui dit souvent « c'est un sentiment, sentiment d'être oublié. C'est un senti qui ment. » Car si dans bien des croyances, l'homme ne peut atteindre Dieu, dans notre foi, c'est Dieu qui est venu habiter au milieu des hommes. Il est descendu du ciel sur la terre afin de nous ouvrir le chemin du ciel par l'œuvre accomplie à la croix. En parlant de son voyage, Aurore me disait, elle a pris à quelques occasions l'avion, hein, comme pour venir ici, et que quand on prend l'avion, c'est très étonnant. On peut être dans la grisaille du monde et puis tout à coup, par la technologie, on est au-dessus des nuages. Et on est exposé à un soleil éclatant. Ça fait des mois, des semaines, qu'on n'a pas vu le soleil, et puis tout à coup, pas en Bretagne, hein, je vous rassure, du côté de Istres, c'est possible, mais pas en Bretagne. Mais être la première fois que j'ai pris l'avion, ça a été quelque chose d'étonnant. Moi, c'était assez tardif, je ne l'ai pas pris dans ma jeunesse, mais après, dans mes activités professionnelles, ça m'est arrivé. Et la première fois que je suis arrivé au-dessus des nuages, je dis... Ah ouais, quand même, c'est comme... Il est toujours là. Il est toujours là. Dieu est toujours là. Même si les circonstances sont difficiles, il ne m'oublie pas. David dira, jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? C'est-à-dire, jusqu'à quand tu vas te cacher de moi ? Comme si... Du fait de difficultés rencontrées, on avait le sentiment que Dieu joue à cache-cache avec nous. C'est insupportable. Quand j'étais petit, j'étais placé en famille d'accueil avec une de mes sœurs et mon frère. Ma sœur était beaucoup plus jeune que nous. Et on aimait beaucoup jouer à cache-cache avec ma sœur, mon frère et moi. Le jeu, ça consistait à ça. On devait trouver deux cachettes. On avait un arbre où, en quelques secondes, on arrivait à monter au faîte de l'arbre, à se poser, à s'asseoir. Et puis, il y avait une autre cachette qui était derrière la roue d'un très vieux tracteur dans un hangar. On avait aménagé un coin. C'était nos deux cachettes. Et en général, on commençait toujours le jeu cache-cache avec ma sœur Georgina, en lui disant, bah, « Voilà, c'est toi qui t'y colles, après, ça sera nous. » Sauf qu'on prenait ces deux cachettes-là, on allait se cacher, et ça durait une heure et demie. Nous, on était là, puis du haut de l'arbre, on la voyait passer en dessous, crier, appeler. Nous, ça nous amusait beaucoup. Ma sœur, beaucoup moins. Est-ce que Dieu se cache de cette manière-là lorsqu'on a le sentiment de se débattre ou de se battre contre les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Non, 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 Dieu ne se cache pas. Vous savez, qui s'est caché en premier dans la relation homme-Dieu ? C'est Adam et Ève au jardin d'Éden. Lorsqu'ils se sont séparés de Dieu, ils sont allés se cacher parce qu'ils avaient peur d'être vus dans ce qu'ils étaient, dans toute leur nudité et dans le péché qui les avait touchés. Dieu ne s'est jamais caché. Il ne se cachera jamais. Job dira au chapitre 31, verset 35, « Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute ?» Qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute ? Voilà ma défense toute signée. Que le Tout-Puissant me réponde ! Il en est encore à se dire, mais qui se cache ? Où est Dieu pour qu'il me réponde ? Ce n'est pas Dieu qui se cache. Même quand, alors c'est peut-être difficile à entendre quand on est dans des temps difficiles, mais même quand on est dans des temps difficiles, Dieu ne se cache pas. C'est nous qui nous sommes éloignés de lui et qui pouvons vivre les moments difficiles loin de lui. Mais comme dans le récit de l'Éden, Dieu continue à chercher l'homme. Où es-tu ? Où es-tu ? Dieu ne se cache pas. Il cherche l'homme là où il se trouve, y compris dans sa souffrance et sa difficulté. Être oublié et être seul, des ressentis qui renvoient à l'origine du péché. En effet, l'oubli de la parole, de la personne de Dieu, ainsi que la peur qui fait que l'homme se cache, sont autant de ressentis en lien avec l'expérience du péché. Si le doute est inséparable de la foi, et même donnant sens à la foi, il y a un doute qui est destructeur, séparateur entre l'homme et son créateur. Et c'est cela, ce doute. Est-ce que tu te caches de moi, Seigneur ? Non, non. Je suis toujours là, présent à tes côtés. Dans ce psaume, si vous lisez les premiers versets, les quatre premiers versets, vous verrez que la souffrance de David est aussi liée au fait qu'il est uniquement centré sur lui-même. Tu m'oublies, moi. Tu me voiles ta face, à moi. Jusqu'où imposerai-je des conseils en mon être, l'affliction dans mon cœur chaque jour ? De quand ? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusqu'à quand ? Moi, 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 moi ! Et la difficulté de David, c'est que dans sa souffrance, il est centré sur lui-même et uniquement sur lui-même. Et c'est légitime aussi, dans un premier temps. Ce qui l'est moins, c'est de rester dans cette position durablement sans élever son regard, son cœur vers Dieu. Il n'y a pas forcément de réponse au pourquoi qui envahissent notre cœur. Mais il y a un endroit où pouvoir se réfugier ailleurs qu'en soi-même. Et le risque est là. C'est de s'enfermer en soi-même, loin de Dieu. Il y a un verset 2, il est dit « Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ?» Pour David, l'ennemi, c'était en particulier Saül qui voulait le tuer. Mais lorsqu'on lit ce verset-là, l'ennemi, est-ce que ça ne peut pas être parfois nous-mêmes ? Nous-mêmes qui nous enfermons loin du regard de Dieu, de la présence de Dieu, pour trouver en lui la réponse à notre souffrance. La réponse n'est pas la réponse au « pourquoi il m'arrive ceci ?» mais la réponse c'est « comment je peux retrouver dans ma relation avec lui quelque chose qui vient apaiser mon âme et mon cœur ?» Dieu n'est pas responsable de nos souffrances, de nos pertes, mais il peut devenir le gain qui fait que nos pertes sont supportables. Alors mon ennemi, ça peut être aussi moi, si de manière durable, alors je sais que ce n'est pas une parole facile à entendre, mais comprenons-la, Je peux devenir mon ennemi si je m'enferme dans mes pertes sans y associer Dieu ou sans les vivre avec Dieu. Il y a tant d'hommes et de femmes, et ça c'est aussi mon expérience professionnelle, tant d'hommes et de femmes qui se sont enfermés dans leurs souffrances. Non pas des mois, non pas des années, parfois des décennies et parfois toute une vie. Comment, dans ce que je vis, je peux rentrer dans ma relation avec mon Père, avec mon Dieu? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Je dirais avec mon âme. Ce que Dieu attend, y compris dans les temps de difficultés et de souffrances, c'est certainement que nous puissions vivre aussi une conversion. Pour traverser ces temps-là, en l'associant à notre vie, en allant vers lui. Tel que je suis, Seigneur, je viens à toi, avec ce que je suis, avec ce que j'ai vécu. Comment sortir d'un tunnel qui est sombre? Parfois, simplement en acceptant d'aller vers Dieu, de vivre ces temps-là avec lui et non pas en dehors de lui. Consulter avec chacun son propre cœur pour ne pas m'endormir du sommeil de la mort. Parce qu'il y a quelque chose qui relève de la mort quand j'essaye d'entretenir ce que je vis sans Dieu. Quelque part, je ne permets pas à la vie de Dieu de s'accomplir en moi, y compris dans ces chemins-là. Oh, j'imagine que dans cette écoute de ce verset, on se dit, oui, c'est facile à dire quand on n'y est pas. Bien sûr, il y a des temps. Comme le dit Salomon, il y a des temps pour pleurer. Mais est-ce que Dieu s'attend à ce qu'on pleure toute notre vie? Alors comment trouver un chemin avec lui en l'associant dans notre chemin et nos circonstances? Il va, David, prier. À partir du verset 3, il va prier en utilisant trois mots particulier, il dit « Regarde, réponds-moi et apporte-moi ta lumière. » C'est cela, hein ? Dans les deux premiers versets, il évoque la situation de détresse, de souffrance, mais à partir, c'est la césure, j'ai envie de dire, qui va amener le verset 5 et 6, mais c'est au verset 3 dire « Maintenant, Seigneur, je te demande de regarder. » C'est de l'impératif. Réponds-moi et donne de la clarté ou de la lumière à mes yeux. Regarde, réponds-moi. Et dans la version Chouraki, c'est « Illumine mon œil que je ne sommeille pas de mort. » Alors regarde, pouvoir dire à Dieu « Vois où je suis. » Déjà prononcer ces paroles-là dans cet « aller vers Dieu », c'est faire un acte de foi, c'est dire « maintenant je ne veux plus être le seul à regarder et à regarder avec tristesse ce que je vis, mais je te le demande Seigneur, je viens vers toi afin que tu regardes ce que je vis. » Regarde Seigneur. Accepter de ne plus porter de masque, de ne plus faire semblant, devenir à lui tel que nous sommes. Et la deuxième partie, c'est « Tu regardes ? Alors réponds-moi. » Réponds-moi, mais pas forcément de la manière dont moi je voudrais entendre certaines choses, mais réponds-moi comme un père parle à son enfant qui vit quelque chose de difficile. Réponds-moi. Alors c'est vrai que Dieu ne répond pas toujours comme nous le souhaiterions. C'est pénible les pères. Vous ne trouvez pas ? Enfin, je parle aux pères qui sont là. Le maire, non, bien sûr que non, mais les pères. Hein ? Regarde et réponds-moi. L'Éternel du haut des cieux se penche sur les êtres humains pour savoir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens et qui cherche Dieu. Ce que fait, ça c'est le psaume 14, verset 2, le psaume suivant, eh bien, il y a là une clé. L'Éternel se penche sur les êtres humains pour savoir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens. Et le bon sens, c'est en fait d'aller vers Dieu et de s'adresser à lui, lui parler. Même si c'est de l'impératif en se disant, mais Seigneur, regarde ! Et vous voyez, quand il dit cela, il ne dit plus, tu te caches. Non, non, je suis là dans cette relation avec toi. Alors, regarde et réponds-moi. Et puis, il y a cette demande de clarté divine. Moi, j'aime la version Chouraki qui dit « Illumine mon œil ». Illumine mon œil. Parce que parfois, on est tellement enfermé le nez sur nos difficultés que finalement, on ne voit pas la lumière que Dieu peut apporter. C'est ce témoignage que j'ai vécu dans ma vie avec Francine, d'un ami qui a fait son collège biblique avec nous, dans les années fin 70-80, et qui travaillait dans la SNCF Suisse, la CFF, et qui faisait partie du groupe de jeunes, qui tenait la main de Francine et la main d'un autre frère qui s'appelle Marc Flachy. Et Bernard, c'était son prénom, s'est converti en tenant la main de Francine. Au même moment, tous les trois sont convertis. Il faisait partie du groupe de jeunes, et puis il travaillait à la CFF, et puis un jour il a eu un accident, il est tombé sous un train, et il a perdu une jambe. Tout le groupe de jeunes a prié pour que la jambe repousse. On sourit, parce qu'on se dit, oui, enfin bon, mais si, Dieu est capable, hein. Mais la jambe n'a pas repoussé. Et donc, du coup, ben, il a changé de vie, d'activité professionnelle, et puis il est allé, du coup il s'est formé pour servir le Seigneur et sortir du collège biblique, on était ensemble avec Michel et lui, eh bien il a pris un poste pastoral, et puis à 42 ans à peu près, on a appris par nos enfants qui étaient en lien avec des enfants de Suisse qu'il était décédé d'une crise cardiaque sur un bateau. Il était pasteur d'une petite église de Sion où était. Et c'est là que Laurent, qui est parmi nous, est allé prendre sa succession dans l'Église le temps qu'un nouveau pasteur puisse venir. C'était une incompréhension. Pourquoi tout cela? Pourquoi cet accident? Pourquoi ce départ aussi jeune? Et quelques, peut-être 3 ans après, Dina, sa femme, nous a donné un message. Après le décès, en fait, le médecin qui a fait les constatations est venu la voir en disant « Mais votre mari, est-ce qu'il faisait des sports violents ?» Elle a dit « Bah oui, oui, avant son accident, avant de perdre sa jambe. » Et il faisait du karaté, il faisait du jiu-jitsu, il faisait tous les sports de combat, il les faisait. Elle a dit « Ah, d'accord. » Et qu'est-ce qui l'a fait arrêter ? Bah, son accident, la perte de sa jambe. D'accord. Et le médecin a eu cette parole dans un moment assez particulier. Il dit « Heureusement qu'il a eu cet accident. » Andina l'a regardé en disant « Mais pourquoi ?» Eh bien, parce que s'il n'avait pas eu cet accident, il serait mort. Il avait un problème, un défaut cardiaque qui aurait certainement provoqué son départ plus tôt. Pourquoi, Seigneur ? Nous ne savons pas toutes les choses. Mais est-ce que nous pouvons dire « Seigneur, donne de la clarté à mes yeux, quand tu le souhaiteras, quand tu le voudras. Éclaire-moi, en tout cas, sur le chemin que j'ai à parcourir, afin que je ne laisse pas la mort gagner en moi. » Et puis, ce « regarde, réponds-moi, éclaire-moi » fait que David termine ce psaume par « Moi, j'ai confiance en ta bonté. » C'est une déclaration de confiance. On se dit, waouh, quel chemin à partir du verset 1. Jusqu'à quand? Tu m'oublies, tu te caches. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Et en fait, c'est tout un cheminement que David nous propose sur son expérience. C'est là que la parole de Dieu est une parole merveilleuse parce qu'elle nous propose des chemins de vie et non pas de mort, des chemins de conversion et non pas de statu quo. La parole de Dieu veut nous enseigner comment avancer, quelles que soient les circonstances. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. C'est un constat, c'est une proclamation, c'est un témoignage qu'on entend. Il m'a fait du bien malgré les circonstances. Il a été là, il ne s'est pas caché. Il a parlé à mon cœur. Il a soulagé mon âme. Waouh ! Tu es grand, Seigneur, tu es merveilleux. J'ai confiance en ta bonté. Ce n'est pas une bonté qui est méritée. Elle est imméritée, propre à Dieu, souvent répétée. L'Éternel est un Dieu de bonté, de miséricorde et de compassion. Et vous savez que compassion, le mot hébreu, ça vient de Réhem, ça veut dire l'organe, la matrice de la femme qui porte l'enfant. C'est ça l'avantage, j'ai envie de dire, de notre Dieu, c'est qu'il est à la fois un père et une mère. Réhem, un Dieu de compassion, qui a une matrice d'amour pour nous porter et nous entourer. Mon cœur est dans l'allégresse. Il n'y a pas eu de changement brutal d'émotion, mais plutôt une affirmation. Il a prié, il sait qu'il a prié, et il sait en qui, comme dirait Paul, je sais en qui j'ai cru. Amen. Alléluia. Comment expliquer ce changement? Est-ce que sa prière a été exaucée? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu une parole prophétique le dimanche matin où David est allé à l'église, Jean-Louis a prophétisé? Ou Juliette? Je ne crois pas. En fait, qu'est-ce qui fait la différence? C'est la rencontre avec Dieu. C'est la rencontre avec Dieu. Rappelez-vous, Élie qui dit « Je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir, j'en ai marre, c'est terminé, je baisse les bras, j'abandonne. » Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui propose? Une randonnée de 40 km avec deux pains et un pichet d'eau. Ça, c'est une réponse de Dieu. Et il l'amène jusqu'au mont Sinaï. Le lieu de la révélation, le rêve de Dieu. Et là, Élie rencontre Dieu. Rien n'a changé entre son discours avant et après la rencontre. Aucune circonstance n'a changé, mais il a rencontré Dieu. Alors Dieu lui dit, maintenant tu peux redescendre. Les circonstances n'ont pas changé, mais tu peux redescendre parce que cette rencontre-là a rechargé en toi cette confiance dans ton Dieu. Est-ce que nous pouvons vivre la même chose là aussi, au travers de nos chemins? C'est une femme qui s'appelait Carmichael qui disait « Dans l'épreuve, premièrement, je sais que c'est lui qui m'a amené là et c'est par sa volonté que je suis au bon endroit. Je prends ça comme un fait. Ensuite, il me maintiendra là en son amour et me donnera la grâce de me comporter comme son enfant. » Puis il transformera l'épreuve en bénédiction, m'enseignant des choses qu'il veut que j'apprenne en installant la grâce qu'il veut m'accorder. Enfin, en son bon temps, il peut me faire sortir d'ici de nouveau. Comment et quand, ça, lui le sait. Mais je lui fais confiance. Ce verset 5 et 6 a été intégré à une prière juive, je crois que c'est dans les années 60 avant Jésus-Christ, une prière juive qui est proposée comme lecture tous les jours et qui est composée uniquement de versets. Et le verset 5 et 6 fait partie de cette prière juive. Alors, j'aimerais juste vous relire ce verset 5 et 6 et prier ensemble. J'aimerais même plutôt autre chose. J'aimerais qu'on le lise ensemble à haute voix. Pour ceux qui le souhaitent, vous n'êtes pas obligés. Mais pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à le lire à haute voix comme une proclamation de foi. Alors, 5 et 6, on va commencer par moi. On va faire, c'est plutôt le verset 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Merci Seigneur pour cette proclamation que nous faisons de confiance envers toi, quelles que soient nos circonstances, Seigneur. Les réponses sont en toi, mais la vie aussi est en toi. Alors Seigneur, que nous puissions choisir la vie en toi. Amen.